On va commencer. Comme vous pouvez le voir avec le tissu qui est devant moi, aujourd'hui, nous allons parler de l'Australie, ou plus exactement Marika Moiseïev, chercheur au CNRS, qui est chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale et qui travaille depuis très longtemps sur les aborigènes australiens, va nous parler du paysage en Australie. Alors c'est une question qui est très débattue parmi les spécialistes de l'Australie. Est-ce que la conceptualisation extrêmement complexe que les aborigènes australiens ont fait de la cosmogénèse certains d'entre vous sont familiers, puisque j'en ai longuement parlé dans ces cours, peut s'assimiler à la production d'un paysage? Est-ce que les peintures, à la peinture acrylique sur toile et puis sur toutes sortes de supports, sur des nappes comme ça, sur des t-shirts, peuvent être assimilés à des paysages, puisqu'ils représentent des itinéraires suivis par des ancêtres ou des prototypes totémiques jadis, itinéraires que les Australiens contemporains continuent à suivre en mettant leurs pas dans ceux de ces êtres fabuleux. Donc la question est particulièrement importante, intéressante pour nous, d'autant que depuis quelque temps, les aborigènes se sont mis aussi, certains d'entre eux en tout cas, à peindre des paysages à la manière occidentale. Et donc le rapport entre les deux formes de figuration est pour nous particulièrement intéressant. C'est un cas limite, en somme, de la possibilité d'étendre la catégorie du paysage à des civilisations, des cultures très différentes de celles où la catégorie est née en Occident et en Extrême-Orient. Donc merci Marika d'avoir accepté de venir nous parler. Et je te donne la parole.
J'étais très honorée que Philippe Descola me propose de venir exposer un travail que j'ai fait depuis quelque temps. C'était un séminaire sur le paysage. Je me suis rendu compte assez vite en venant au cours que ce que Philippe Descola essaye de faire en conceptualisant le paysage d'une façon particulière qui permette d'avoir une perspective comparative proprement anthropologique, faisait qu'en fait, moi, quand je parle de paysage, je n'avais, moi, pas conceptualisé les choses et que peut-être que j'ai utilisé le paysage dans le sens d'environnement, enfin, je veux dire, de façon alternative. Puis en même temps, j'ai l'impression quand même qu'il y a bien une perspective paysagère chez les aborigènes. En y réfléchissant, je ne suis pas sûre d'avoir les moyens de vous le démontrer, donc ça risque de partir un peu dans tous les sens, parce qu'effectivement, quand on a déjà un travail et puis qu'ensuite on essaye de le mélanger à quelque chose qui n'est pas proprement digéré, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin, toujours est-il que donc j'ai deux types de travaux à mon actif en ce qui concerne les aborigènes. D'une part, j'ai travaillé sur les matériaux qui ont été recueillis dans le désert central australien chez les Aranda à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc ça, c'était des données ethnographiques que je n'avais pas moi-même recueillies, mais qui ont fondé quand même toute une partie des données qui ont fondé quasiment l'anthropologie à la fois anglo-saxonne et française, puisqu'il s'agisse de Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse, qu'il s'agisse de Mauss, qu'il s'agisse de Lévi-Strauss, on peut tous les nommer, Radcliffe Bowen, etc. Vraiment, les fondateurs de l'anthropologie se sont tournés vers ces données qui étaient assez fabuleuses. Enfin, fabuleuses dans le sens où c'était des données quasiment brutes, pas bien analysées, mais qui étaient tout à fait remarquables. Et puis, d'une époque, du moment de la rencontre des aborigènes avec les Britanniques qui ont colonisé le pays. Donc, comme je le disais, j'ai du mal à savoir est-ce qu'on va pouvoir dire que c'est du paysage. Intuitivement, j'en ai l'impression, et notamment parce que je partirais quand même de certaines idées qui sont pour l'instant, je ne crois pas non plus, totalement intégrées dans ce que Philippe Descola a donné à son cours. C'est-à-dire que il y a des modalités discursives pour évoquer le paysage, chez les aborigènes. Il y a, donc ce sont, il y a des mythes d'origine qui évoquent son émergence avec un parallèle justement entre l'ontogenèse et la cosmogénèse. Il y a également d'autres types de récits que je désigne comme récits rituels parce qu'ils ne sont pas du tout comme des mythes d'origine, je vais les évoquer. Et puis il y a également quelque chose peut-être qui n'a pas été évoqué, ce sont les performances rituelles qui se posent en fait comme représentant ce qui anime le paysage, c'est-à-dire les principes de fertilité. Je ne vois pas comment pour les aborigènes on pourrait détacher le principe fertilisateur de la perspective que les aborigènes ont eux-mêmes sur le paysage. Ce qu'ils y voient, notamment dans des traits de paysage qui sont particularisés et qui sont associés à des êtres du rêve, je n'utilise pas moi ancêtres parce que depuis longtemps déjà, il y a toute une partie des personnes qui ont considéré que c'était problématique dans la mesure où ils ne sont pas à l'origine d'une ligne de parenté. On en reparlera, mais ce n'est pas des ancêtres au sens classique ou des ancêtres au sens de ce qui se passe justement dans l'ethnologie africaniste. Donc je préfère réserver un terme entre guillemets plus neutre. Il s'agit bien de démiurges, il s'agit bien d'êtres qui ont des propriétés particulières comme les héros des mythes, mais en plus c'est problématique parce que je pense qu'ils servent surtout à évoquer un principe qui n'est pas anthropomorphe, qui est simplement le mouvement spatial, ce qui est à l'origine de la différenciation des formes et qui est complètement insubstantiel, ce qui peut-être pourrait évoquer la physis grecque. En tout cas, c'est un mouvement qui ne se voit pas, comme toute force transcendante. Il y a une invisibilité qu'on doit respecter. On va voir que c'est justement ce qui est important dans les formes de représentation qu'on va donner au paysage. Pour respecter, on montre tout en cachant. Ça, c'est vraiment typique des représentations traditionnelles aborigènes. Et comme ça, on évoque justement les principes transcendants qui sont associés aux principes fertilisateurs, en sachant que les lieux importants qui sont vus dans le paysage sont censés être associés à justement des éléments spirituels qui sont à l'origine de l'incarnation des êtres vivants, des êtres humains et des êtres qui soient végétaux ou animaux, hein, qui sont à l'origine donc du lien que les individus humains ont avec ce qu'on appelle les totems, c'est-à-dire une espèce non humaine. Donc, effectivement, ce qui est aussi intéressant, récemment, je lisais un article de Nancy Munn qu'elle a écrit en 1996, c'est-à-dire qu'en général, quand on parle du paysage, on évoque ce qui est visible, donc on représenterait ce qui est visible, mais les aborigènes, d'une part, insistent pour représenter ce qui n'est pas visible. Et par ailleurs, ce que disait Nancy Munn, c'est que quand ils regardent le paysage, les lieux qui irradient des esprits susceptibles de provoquer l'incarnation, ce sont des lieux en général interdits, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas y aller. Il y a des initiés propres à des centres totémiques particuliers qui peuvent y aller, mais les gens qui ne sont pas associés à ce centre totémique n'ont pas le droit d'y aller. Et par ailleurs, il y a des lieux où on ne peut pas aller parce qu'il y a des parents, en particulier les relations belle-mère-gendre sont très importantes, et donc on n'a pas le droit non plus d'aller dans certains endroits où on peut rencontrer potentiellement des parents interdits, hein, où on ne doit pas avoir de rapprochement. Et puis par ailleurs, il y a les initiés, quand ils partent pour faire ce qu'ils appellent du business, c'est-à-dire des rituels, ils utilisent maintenant des véhicules motorisés, hein, ils adorent ça, mais justement, il y a le business truck qui va traverser le paysage, et les gens qui ne sont pas des initiés, vont aussi s'en éloigner. Donc, je trouvais intéressant qu'elle insiste sur le fait que la façon dont les aborigènes regardent l'environnement, ce n'est pas seulement des choses qui sont visibles, c'est aussi qu'ils repèrent des lieux où il ne faut pas qu'ils voient. Ce n'est pas seulement qu'ils ne doivent pas être en présence, c'est qu'ils doivent être à une distance suffisante pour ne pas les voir. Et du coup, quand on a affaire à des paysages plus classiques chez nous, ben, notamment justement d'un point de vue, je dirais, de géographie humaine, où il y a des limites et on va voir les haies qui séparent les champs, etc., on a l'idée que ce qui représente une frontière, c'est quelque chose qui est justement une frontière linéaire à la périphérie de quelque chose. bien, ce qui est interdit chez les aborigènes, c'est plutôt des centres qui irradient. Donc c'est à partir de points du paysage qui sont particulièrement proéminents, qui sont censés être associés avec un être du rêve particulier, qui a laissé derrière lui des esprits enfants, c'est-à-dire des esprits qui vont permettre l'incarnation donc d'êtres vivants. Eh bien, c'est plutôt ça irradie, donc il n'y a pas une limite qui est très précise. Alors, je pense que c'est important parce que il y a un autre problème quand j'ai réfléchi. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il s'agit bien d'une perspective paysagère, mais qui est propre aux aborigènes. Donc, c'est à la fois, je pense qu'on peut la comparer à la nôtre, et en même temps, il y a vraiment des différences foncières. Mais ce qui fait problème, j'en ai discuté avec Bernard Moiseau, mon collègue qui a travaillé en Australie, c'est que les aborigènes n'utilisent pas le terme landscape, donc paysage. Et j'ai écrit donc à quelqu'un sur mon terrain qui vous montrait qu'il est au sud de l'Australie, qui a un lien avec les directs, avec les chemins qui vont dans le pays Aranda. Il y a aussi des Arandas dans la communauté où j'ai travaillé, même si c'est pas un territoire Aranda. Je me suis perdue dans ce que je disais. Oui, donc par rapport à cette histoire de paysage, donc les aborigènes se sont appropriés des termes anglais. Par exemple, pour ce mouvement spatial qui est le principe même du mouvement spatial chez les aborigènes, le rêve, vous avez dû en entendre parler si vous avez entendu parler des aborigènes australiens, eh bien, ils vont parler de « the low », ils parlent de « dreaming », donc, et par ailleurs, il parle beaucoup de country and places. Mais landscape, c'est vraiment pas un terme qui est approprié. Et on verra plus tard, je pense que c'est parce qu'en fait, le rêve lui-même, c'est-à-dire le principe à l'origine de la différenciation des formes et de la fertilisation de l'environnement, est lui-même, en fait, subsume l'idée de paysage. Je pense que c'est vrai que c'est... Bon. Et donc là, en écrivant, en recevant... une réponse à la question que je posais avec quelqu'un avec qui je travaille dans le sud de l'Australie, il m'a répondu effectivement qu'il y a bien un terme pour rêve, il y a bien un terme pour place, mais en ce qui concerne landscape, il m'a répondu, je pense que ça serait my country. Bon. Maintenant, my country, ça voudrait dire en français, si on traduit littéralement mon pays, c'est pas le sens. Bernard était d'accord avec moi. C'est plutôt mon terroir, parce que là encore, mon pays, ça serait quelque chose, surtout dans le contexte européen qui est le nôtre, on a l'impression d'un pays bien circoncis. C'est pas le circonscrit, mais c'est pas le cas chez les aborigènes. C'est une chose qui est importante aussi. Par exemple, quand des amis aborigènes sont venus en France, ils ont voyagé avec moi, ils étaient très frappés par le fait qu'il n'y a pas de no man's land entre les pays, enfin les terroirs. Le fait qu'on ait, vous avez une plaque avec Paris, et puis vous passez, c'est barré, il y a un autre nom, ça les choquait beaucoup. Donc l'importance, là encore, de ce que relevait Nancy Mun, le fait qu'il y a il y a un terme qu'on dit en anglais, on dit « no room ». Alors ça, c'est très drôle parce qu'effectivement, « no room », c'est quand une place est, on dirait, tabou, c'est-à-dire qu'on ne doit pas y aller. Et c'est très intéressant parce que quand on voyage en Australie, il y a beaucoup de places, parce que c'est vraiment un pays très désertique et il y a beaucoup d'endroits, quand on voyage avec les aborigènes, qui sont absolument vides. Et il y a des gens, à un moment, ils sentent que c'est trop... Enfin, qu'il y a des reviviscences, que peut-être c'était un territoire sacré, et ils disent « Ah non, je m'en vais parce qu'il n'y a pas assez de place. » Et donc, effectivement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place parce qu'il y a déjà un principe qui est fort, qui imprègne les endroits. Donc, les « places », pour les aborigènes, me semble-t-il, ça renvoie à ces lieux marqués par un trait de paysage qui est spécifié, qui est nommé, qui est associé avec un être du rêve particulier. Alors, je me suis dit que pour essayer d'expliquer, qu'est-ce qui ferait que par rapport à l'Amazonie, en tout cas, j'avais trouvé intéressant le premier cours de Philippe Descola sur le paysage, partait de son expérience avec un hachoir. Donc, Je pense que tu étais sorti après plusieurs mois dans la forêt amazonienne et vous êtes trouvé dans une trouée de la forêt avec une rivière, la Pastassa, je crois. Et donc, je ne sais plus si c'est toi qui avais dit c'est beau ou si la Chouard avait dit c'est beau, mais en fait, après, tu es revenu en disant mais peut-être ça voulait dire c'est bien. Et c'est de là que t'es venue l'idée, mais quand les gens, enfin quand on parle de paysage, qu'est-ce qu'on entend par là? Et est-ce que vraiment l'expérience qu'on en a est partageable dans la mesure où ce qu'on verrait est informé par notre éducation et la façon dont on a fait de voir? Et en Occident, on aurait quand même une formation à partir justement de représentations paysagères, donc comme tu le dis, qui sont nées finalement au XVIe, XVIIe siècle. Et voilà, donc effectivement, on est habitué à avoir des peintures de paysages et du coup, on voit des choses que peut-être ne sont pas tout à fait partageables par les aborigènes. Et une des choses que tu relevais, c'est le fait qu'il fallait peut-être avoir un recul. Il y a non seulement la nécessité d'avoir des représentations, un support pour représenter le paysage, mais aussi un point de recul qui permette justement de voir le paysage à distance, un petit peu comme les miroirs noirs, le rétroviseur, on en a pu parler, qui est apparu à un certain moment. Donc d'avoir ce recul. Et on se doute bien qu'en forêt équatoriale, et notamment je veux dire, en Amazonie, qui est quand même le poumon de la Terre, donc où c'est très très chargé, donc là c'est l'Amazonie. Et pour faire la différence, je vous ai mis le continent australien, qui, donc c'est pareil, hein, c'est Google Earth, mais on voit bien, étant donné la couleur, que c'est dit le plus vieux continent, et qu'il est bien terne, parce qu'effectivement, la majorité du territoire australien est désertique. Et donc, dans un désert, vous avez quand même pas mal de recul. Et ce qui va être frappant, c'est tout ce qui concerne les montagnes. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant, les montagnes, les roches, les surfaces sont extrêmement importantes. On va voir aussi que si pour nous, le paysage australien renvoie à quelque chose de stérile, et c'était l'impression des premiers Européens qui y sont allés, enfin, eux, ils voyaient que des choses absolument stériles. Pour les aborigènes, le désert, c'est fertile, c'est comme un silo. Enfin, plus c'est sec, et plus ça permet de préserver. Donc ce qu'ils y voient n'est pas du tout de la même façon. Et par ailleurs, ce qu'on y voit, c'est ce qui s'imprègne des actions qui se passent dans le paysage, et qui, pour les aborigènes, sont associées à la différenciation de surface, qui permet justement de fertiliser le paysage, qui est bien une preuve, effectivement, de son dynamisme. Donc il y a des éléments proéminents qui sont en particulier, donc il y a évidemment des arbres, des dépressions, des choses, mais je veux dire, vous avez entendu parler d'Uluru, hein, le Ayers Rock, hein, ce grand rocher, donc évidemment sur un paysage aussi plat, dès qu'il y a une roche, ça apparaît très particulier. Il y a plein d'éléments comme ça en Australie. Et j'ai trouvé intéressant qu'en fait, dans les premières, dans les peintures de paysages, donc c'est parti pour ton cours, il y avait pas mal en fait de représentations de montagnes, donc de quelque chose qui était plutôt proéminent, ou même, semble-t-il, dans ce que tu as dit être là, l'une des premières peintures naturalistes en Italie. C'est quand même sur un promontoire, enfin une baie, mais qui, me semble-t-il, est sur un promontoire. Donc également quelque chose quand même qui fait qui prédomine. Et là, évidemment, dans un paysage désertique, c'est très important. Alors, je vais en profiter pour vous montrer. Donc moi, je travaille à Porto Augusta, qui est ici. Bon, le territoire Aranda, il est ici. Donc il y a un lien, il y a des lignes, des chemins qui mènent. Et l'endroit où j'ai fait mon terrain, normalement je l'ai mis là, voilà, j'ai fait mon terrain dans cette communauté que vous voyez là. Voilà, c'est ici, ça s'appelle Davenport, c'est donc à 3 km de Porto Augusta que vous avez vu tout à l'heure. Et là, il y a un lac salé qui est un lac sacré qui est désigné dans la mythologie Aranda, puisque les êtres du rêve qui sont nommés dans la mythologie Aranda sont partis en fait très au sud du pays Aranda, et ce lac salé est dans la mythologie Aranda elle-même, même si ça n'est pas un pays Aranda. C'est en fait un pays qui est d'un autre groupe. Voilà, ce recul par rapport à à ce paysage que vous voyez bien désertique me semble avoir une importance très grande sur la façon de représenter le paysage. Donc là, en ce qui concerne un paysage qui dénote, donc là c'est dans un pays à Nyamatna, donc avec les gens avec qui j'ai travaillé dans cette communauté, qui est dans les Flinders Ranges, donc une des montagnes qui sont dans le sud, dans l'état du sud australien. Et ça s'appelle Wilpena Pond. C'est un lieu, it's a place, qui est très important dans le pays à Nyamatna, dans ce que les aborigènes diraient country. Mais après, vous avez un pays qui est générique, mais après, chacun va désigner dans ce pays qui renvoie à un groupe my place and also my country. C'est un peu... Voilà. Alors là, je vous ai mis... on pourra y revenir éventuellement dans la discussion. Là, c'est donc un Walpiri qui était dans la communauté GT, alors que le pays Walpiri est tout à fait dans le nord-ouest du désert. Mais il était là, et donc il m'a fait trois peintures. Vous allez voir qu'ils se ressemblent pas mal. Donc dans un style traditionnel, peinture à petits points, avec on voit des demi-cercles qui représentent la trace laissée dans le sable par des gens qui sont assis. Il y a des objets, voilà. Donc effectivement, son rêve, voilà. Et en même temps, c'est lui qui a fait ce paysage. Donc il y a un paysage typiquement à l'occidental, nature paysagère. C'est le même qui a fait ça. C'est pas le même endroit. Mais c'est dans la même région, mais ce n'est pas le même endroit. Et là, en fait, tu disais que c'était récent. Non, c'est Albert Namadjira, qui était justement un Aranda, est un des premiers aborigènes, enfin, il est très connu. Dans les années 50, il a commencé à faire des peintures que détestaient Lévi-Strauss, parce qu'il trouvait que c'était très laid. Alors que moi, je trouve ça intéressant, parce que ce n'est pas du tout les couleurs qui étaient utilisées. Autant le style est à l'occidental, autant les couleurs utilisées que Lévi-Strauss associait à l'aquarelle des vieilles dames anglaises qui buvaient leur thé, en fait, n'était pas courante à l'époque du côté des blancs. Donc l'utilisation particulière des couleurs chez les aborigènes est importante. Ça, c'est un autre tableau de Namadjira. Alors Namadjira, en plus, est connu parce qu'il a été décoré par la reine d'Angleterre. Et ensuite, comme il a été décoré, il a eu un statut particulier qui lui permettait de voyager sans permis. Donc il était un peu libéré de son statut d'aborigène. Mais ce que ça impliquait à l'époque, hein, dans les années 50, c'était que si on avait un statut un peu d'aborigène libre, il ne fallait plus continuer à avoir des relations avec sa famille, ce qui est absolument très difficile pour les aborigènes. Et on l'a trouvé en train de boire avec sa famille et il a été mis en prison et il est mort pas longtemps après être sorti de prison. C'est une histoire un peu triste qui était très connue en Australie. Et voilà, ça, c'est une peinture qui n'est pas de Namadjira, mais qui est à la Namadjira, donc de Uluru. Et puis, j'ai fait un peu comme toi, Philippe, j'ai mis le paysage, un des paysages. Là, ça doit être pas très loin après les pluies, parce que ça peut être extrêmement sec également. Là, c'est mon père aborigène qui m'a fait ça, donc qui est lui, à Nyamatna, qui a fait ça, donc c'est une représentation... C'est pas beau parce qu'il faut la regarder de plus près et donc la photo a été prise de trop près. Mais là encore, ce n'est pas des couleurs qui sont très utilisées par les blancs. Par contre, c'est bien une perspective. Alors, où je vous ai mis à côté des peintures plus traditionnelles, donc cercle, demi-cercle, ligne qui relie les uns les autres. On va revenir sur ce à quoi ça renvoie. Donc voilà, c'est plus traditionnel de la peinture du désir du désert central. Donc pour l'instant, c'est bon. Mais vous voyez, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les gens avec qui je travaille, ou même les deux personnes, Billy Bungalow, le premier qui m'a fait ses trois peintures traditionnelles, plus une peinture de paysage plus traditionnelle pour nous, puis mon père aborigène, c'est des gens qui sont du quart monde. C'est des gens qui vivent vraiment dans des conditions extrêmement de pauvreté, de marginalisation extrêmement importantes. Donc, ils n'ont pas la formation habituelle qu'on a de peinture. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une classe moyenne ou même bourgeoise aborigène du tout. Mais quand même, s'ils sont capables d'attraper quelque chose qui répond à notre façon de voir le paysage, je pense qu'il y a quand même quelque chose de sous-jacent. Ils peuvent faire la différence, mais en même temps, ils peuvent représenter. Et même, je dirais, dans les c'est toi qui as gardé mon livre sur les premières représentations qu'ont fait les aborigènes au XIXe siècle, il y a une capacité de représenter un paysage. Donc, c'est parce qu'effectivement, ils sont habitués à regarder l'environnement, à effectivement en représenter des parcelles, puisque c'était besoin, et à utiliser des supports. Donc là, on parle de peinture qui n'existait pas sur des supports de peinture comme chez nous, comme ça existe maintenant avec des peintures à l'acrylique, mais par contre, il y avait des peintures corporelles, il y avait des peintures sur le sol au niveau rituel, et puis il y a des représentations beaucoup plus, séculières, qui sont que quand les aborigènes du désert central racontent une histoire, eh bien, ils dépeignent sur le sol des cercles et des tracés. Hein, les cercles, c'est représente un événement particulier ou un lieu qui est associé à un événement ou un lieu tout court, et puis ou un endroit, un meeting place, un endroit où on se rassemble pour une réunion, et puis les lignes qui sont soit droites, soit sinueuses ou à petits points, c'est les chemins qui relient ces différents emplacements marqués. Et les demi-cercles, encore une fois, c'est la représentation de quelqu'un qui est assis, donc un être humain, ça représente systématiquement un être humain. Et donc, vous avez à l'heure actuelle une sécularisation absolument totale de ces dessins, hein. Mais ça existait déjà. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on faisait des peintures sur le sol, il y avait un usage séculier de ces représentations. Après, il y a des possibilités d'utiliser les mêmes éléments pour représenter des choses qui sont cachées. Donc ça, c'est un peu l'intérêt. Donc, par exemple, ça, c'est donc Porte Augusta. Il y avait une réunion c'était l'année internationale des rencontres des peuples indigènes qui s'est passée en Australie en 1993 quand je faisais mon terrain. Et donc voilà, ça, c'est Porte Augusta que vous avez vu tout à l'heure. Sur le continent australien. Donc ça, c'est l'état du sud australien. Et puis, puisque Porte Augusta était the meeting place, vous avez les différents lieux où les gens sont venus. Donc ils sont venus du nord, ils sont venus différents endroits, ils sont venus d'Adélaïde, etc. Et autrefois, et autant les lignes peuvent être remplacées par des empreintes de pas d'animaux, ça c'est très fréquent, d'oiseaux, de reptiles, etc., de kangourous, autant il n'y avait pas les petits pieds autrefois, mais maintenant on utilise, j'en ai sur mon t-shirt là, enfin, dans les tableaux on l'utilise, on fait des empreintes de pieds humains pour marquer ces... Donc cet usage séculier existe toujours. Et par ailleurs, dans le livre La fabrique des images, donc, qui est paru après l'exposition qui avait... organisé Philippe Descola au musée du Quai Branly. Il y a deux articles, un article sur la peinture du désert central de Françoise Dustard, il y a un autre article de Jessica Delargui qui est sur les peintures sur écorce de la terre d'Arnhem. Et Philippe Descola, l'année dernière, avait évoqué l'importance des côtés chatoyants pour représenter une forme de transcendance dans différents endroits. Enfin, c'est plutôt universel. Et ce que vous voyez là, c'est en fait l'irradiation de la fertilité. Donc, je pense qu'il y aura d'autres choses que je vais vous montrer tout à l'heure, où il y a un tableau qui a été fait pour mon mari et moi par des amis dans la communauté où j'ai travaillé. Et il m'avait écrit effectivement un petit mot pour m'expliquer que ces petits points-là qui irradient, qui peuvent avoir sur les peintures sur écorce, c'est plutôt des hachures, hein, donc sont censés refléter un chatoiement. Dans des peintures faites par des gens très, très traditionnels, ils peuvent recouvrir complètement de petits points des chemins du rêve qu'on ne voit plus et mettre dessous du rouge qui fait que ça irradie. C'est vraiment l'idée que cet espace est plein potentiellement d'éléments spirituels. Donc, c'est pas... Encore une fois, là, on est dans un espace séculier, mais il y a cette idée que quand même le terroir, le territoire, il est potentiellement fertile. Donc, voilà en ce qui concerne les généralités. Je me suis dit aussi que je pouvais peut-être vous rappeler donc les caractéristiques du continent australien. Vous en avez déjà une image au travers de la photo que j'ai montrée. La majorité du continent australien est caractérisée par son aridité et la monotonie, pour des Européens, de ses reliefs. Un côté plat très caractéristique. Et de fait, l'Australie occupe dans l'hémisphère sud la position occupée par le Sahara dans l'hémisphère nord. Il s'agit de vastes étendues plates, de plaines et de plateaux très faiblement arrosés, de façon très irrégulière, possédant quelques cours d'eau temporaires, sans communication avec l'océan. Il s'agit de bassins artésiens qui s'alimentent par l'intérieur. C'est pourquoi les lancements de nucléaires français sont très problématiques. Et le territoire des Arendas dont j'ai parlé, en fait, s'étendait de part et d'autre du centre, plus ou moins du centre géométrique de l'Australie qui correspond à la ville d'Alice Springs à l'heure actuelle. Et voilà comment Roger Dadoun le décrivait il y a quelque temps déjà. De vastes plaines désertiques où règnent le caillou et le sable sont parcourues de quelques chaînes de montagnes et de rivières presque toujours à sec. À côté des plaines caillouteuses, des dunes de sable, des lits desséchés des rivières, on rencontre un autre élément caractéristique du paysage. Il s'agit de faibles dépressions situées en plaine ou de couloirs plus ou moins encaissés entre les dunes. Leur longueur varie de quelques mètres à un kilomètre. Leur socle est souvent en argile, d'où le nom de dépression argileuse, clay pan, qu'on leur donne. Et après les chutes de pluie, elles gardent l'eau un temps, puis se dessèchent. La végétation est dominée par les eucalyptus et les acacias, dont les variétés naines forment en certains endroits des maquis enchevêtrés et épineux, difficiles à traverser, ce qu'on appelle le bush. Vous savez qu'on ne parle pas de brousse en australien, on dit le bush. Et la formation de ce genre le plus typique est le spinifex, dit herbe porc-épique, dont les feuilles desséchées sont semblables à des piquants acérés. On comprend effectivement que ça n'apparaisse pas pour des yeux européens comme quelque chose de très chaleureux. Pourtant, effectivement, la faune n'est pas absente de cet environnement. Au contraire, la faune est très, très diversifiée avec de multiples espèces d'oiseaux extrêmement colorées. Enfin, c'est très beau. Il y a des cacatoès, des perroquets de toutes les couleurs. Il y a des poissons qui arrivent à vivre, même si ce n'est pas des cours d'eau permanents. Des insectes de toutes sortes. Et puis, beaucoup, beaucoup d'espèces de marsupiaux, d'iguanidés. Et puis, ce qui était caractéristique pour les Européens, c'est qu'il n'y avait pas d'espèces natives qu'on pouvait domestiquer. Hein. Le dingo a été probablement importé du sud-est asiatique. Et donc, l'espèce native, il n'y en avait pas qu'on pouvait domestiquer. Donc, de ce tableau objectif de l'environnement australien, le regard occidental du 19e siècle, retenez, comme je l'ai dit, la monotonie, l'aridité et l'aspect peu propice de la faune à constituer des espèces domestiquées. Effectivement, quand on le regarde comme ça, on lui voit une apparence hostile, ingrate, et c'était censé expliquer pourquoi les malchanceux qui s'étaient trouvés confinés là n'avaient pas évolué. Or, évidemment, éclairés par le regard aborigène, au fil du quotidien des récits et des rites, cet environnement apparaît au contraire riche et différencié. En effet, là où dans le paysage nous n'apercevons qu'étendue plate, les aborigènes entrevoient une grande diversité. Rupture apportée ici ou là par l'apparition d'un arbre, d'un buisson, d'un rocher, d'une élévation, de crevasses, de grottes, de trous d'eau, de dépressions argileuses. Et il y a un attachement véritable à l'aspect et au relief du site. C'est très important. Ce que disait Strello, une connaissance pratiquement photographique des sites. Vraiment, la surface est extrêmement importante. Et effectivement, cette connaissance photographique est à rapprocher de l'attention que les aborigènes portent aux différenciations de surface, au point que là encore, quand mes amis voyageaient, c'est quelque chose qu'ils repéraient. Celle-ci les conduit à examiner les sols sablonneux à la recherche des différentes empreintes qui les marquent, qu'elles soient animales ou humaines, et en décrypter une signification. Quel animal, quelle personne est passée par ici, quand et pour aller dans quelle direction. Et cette capacité à lire les traces a été utilisée par les Européens, en particulier pour chercher des voleurs ou des assassins. Donc on utilisait les aborigènes comme trackers, donc pour poursuivre, ou même malheureusement des enfants aborigènes métis qui avaient été retirés de leur famille et qui se sauvaient. On envoyait des trackers aborigènes parce qu'ils avaient cette capacité. Par ailleurs, tous les gens qui ont travaillé en Australie savent que justement, comme les aborigènes repèrent les traces, les sorciers utilisent ce qu'on appelle des chaussons en plumes d'émeu, et ils marchent à l'envers parce que les plumes d'émeu sont disposées de telle manière qu'on n'arrive pas à savoir s'ils avancent ou s'ils reculent, et ça laisse très peu de traces, c'est beaucoup plus difficile à interpréter. Donc effectivement, ça en dit long sur l'importance de lire les traces. Et comme je vous le disais, les aborigènes dans le désert central tendent, et notamment les femmes, à accompagner leur récit de dessins dans le sable, hein, qui associent donc les cercles, les demi-cercles, les lignes droites ou sinueuses, qu'on va retrouver dans les représentations de paysages, comme vous l'avez vu là. Donc c'est à la fois séculier et à la fois aussi dans des paysages qui ont un caractère plus sacré. L'importance accordée à la surface du territoire renvoie également à sa transformation de ce paysage, à l'approche des précipitations, qui est associée aux modifications des roches qu'elle recèle en son sein. Je dirais presque, si vous voulez, ce côté vibrant qu'essaie de représenter à la fois les petits points qui constituent le fond des peintures à petits points ou les hachures dans les bark paintings, dans les peintures sur écorce. En fait, ce côté vibrant est associé au fait que les sols sont vus comme vivants. De fait, effectivement, les sols contiennent du gypse qui se désagrège en poudre, et dans une atmosphère sèche qui déshydrate cette poudre, si vous voulez, les sols se rétractent, alors qu'à l'approche même des pluies, hein, quand il y a un vent qui est chargé de vapeur aqueuse, au contraire, cette poudre se charge d'humidité et gonfle les sols. Et ça va donner lieu à une représentation de ce que serait un espace fertile. C'est-à-dire, encore une fois, effectivement, on voit les aborigènes, pour eux, le désert est vraiment un silo. Mais pour que les germes de vie qu'il contient puissent s'exprimer, il va falloir quand même de l'eau. Hein. Simplement, si l'eau restait, bien les choses pourriraient et ça serait associé justement à la pourriture et à la mort, alors que le fait qu'ensuite elle se dessèche, c'est une façon de préserver les choses. Donc, quand il y a des particules, donc cette poudre est très importante, et pour les arendas comme pour leurs voisins, les particules qui se détachent des pierres émergeant des sols renvoient pour leur part à la dissémination de ce qu'on appelle les esprits enfants. C'est pourquoi, pour inciter les esprits enfants du totem à s'incarner au cours des rites de fertilité, les initiés non seulement frottent la surface de certaines pierres, de certains rochers, mais encore ils parcourent en frappant leur sol les chemins sillonnant le centre totémique où elles sont éparpillées. Ça aussi, c'est connu souvent dans ce qu'on appelle le business, les rituels de fertilité. Les gens font des danses et vraiment frappent sur le sol et on voit cette poussière qui s'élèvent et qui renvoient à cette idée d'éléments spirituels qui sont associés à l'incarnation des êtres vivants. Pierre et chemin sont rattachés à la mise en forme, au modelage du paysage, rattachés au développement, au déplacement d'êtres prodigieux fertilisateurs. Dans ce climat aride, les représentations de la fertilité renvoient deux types de composants distincts et complémentaires. D'une part, les germes vitaux enfouis dans la profondeur de la terre, quelque chose qui est charnel. D'autre part, des éléments subtils, métaphoriquement représentés par les particules qui se détachent des rochers, qui modèlent en fait cette terre en surface. Alors, ça, c'est une chose aussi, enfin, on pourrait discuter, puisque Philippe, quand tu as fait ces quatre ontologies, tu parles de l'intériorité, de l'extériorité, et ça, je trouve ça très intéressant. Extériorité qu'on associe plus volontiers au corps, à la physicalité des choses, et l'intériorité plus à ce qui pourrait être dit l'esprit ou l'âme. Enfin, bon. Mais ce qui m'importe peut-être parce que je suis influencée par les aborigènes, c'est que ce qui fait l'interface entre les deux, c'est la forme. Et je trouve que c'est un élément qui n'est peut-être pas assez exploré. Je sais bien qu'on l'utilise, mais... Je dirais que dans notre culture, par exemple, ce qu'on appelle l'ADN ou les gènes, c'est l'idée effectivement de donner une orientation. On sait que ce n'est pas suffisant, mais une orientation à quelque chose qui est charnel et en même temps qui est donnée par quelque chose qui est une mémoire, qui est contenue dans quelque chose qui apparaît substantiel, mais qui ne l'est pas vraiment. Parce que l'idée de mémoire, c'est quand même difficile à attraper. Donc, il y a une mémoire, qui est associée, enfin, l'idée de mémoire en Occident est passionnante, parce qu'évidemment, quand on a des mémoires vives des ordinateurs, puisqu'il y a des gens qui sont persuadés qu'on va pouvoir télécharger son cerveau dans ces choses, avec une confusion entre justement ce qui serait l'âme et le fonctionnement cognitif. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a cette problématique entre des éléments spirituels qu'on a l'habitude en Occident peut-être de voir comme des essences qui seraient du coup visibles. Or, je pense que là, il y a une idée d'image. Il y a aussi l'esprit est plus du côté de ce qui insuffle la forme de quelque chose. Et là, je trouve que c'est intéressant, parce que le fait qu'effectivement, l'élément charnel peut être pareil d'une espèce à l'autre ou non, enfin, etc., ce serait intéressant d'articuler les deux. Donc là, effectivement, ce qui importe, c'est ce qui va donner la forme. Hein. On va voir que les êtres fertilisateurs, ils sont associés, en fait, là aussi, les êtres fertilisateurs, on ne les voit jamais, on va revoir ça, parce que c'est des êtres essentiellement spirituels. Et dans le sens aborigène, on pourra en parler, c'est à la fois des esprits enfants humains et des esprits enfants non humains, mais cet esprit va modeler le paysage, va impulser l'incarnation des êtres vivants. Un esprit humain ne peut s'incarner qu'en tant qu'humain. Et si, par exemple, il y a des fausses couches avec des fœtus qui sont considérés comme mal formés, on dit c'est une espèce qui... C'est un esprit enfant qui s'est trompé de femelle. Donc voilà. Donc l'idée, effectivement, de cette différenciation est très, très importante. Donc, par ailleurs, bon, dans cet environnement désertique, ça va être pour faire la différence avec la façon dont on voit le paysage dans des contrées comme les nôtres qui ont été très importantes pour les agriculteurs, où on a des changements de saison progressifs. Donc, effectivement, l'idée de la fertilité est associée à cette pousse lente et progressive, les bourgeons, etc. Ça fait des petites feuilles, et puis ensuite ça donne des fleurs, et puis ça donne des fruits. Dans un environnement désertique comme celui de l'Australie, c'est au contraire les contrastes abrupts entre les moments de sécheresse intense et ceux marqués par la pluie qui vont servir à discriminer les saisons. Le rachitisme de la terre de végétation fait alors place en quelques heures à la luxuriance de cette même végétation qui, en reprenant vie, modifie ses couleurs et s'anime grâce à la réapparition et rassemblement des espèces jusque-là dispersées ou comme en sommeil. Donc, je crois que là... Je vais ramener. Donc là, par exemple, c'est un endroit du Simpson Desert qui est où les gens avec qui je travaille vont parfois, bien que ce soit pas, c'est lié à des affiliations qu'ils ont. Donc ça, c'est avant les pluies, donc c'est quand même assez desséché. Et puis là, bon, c'est pas exactement le paysage, mais c'est le même endroit, et vous voyez que c'est très changeant. Et ça peut se faire, enfin, pour les gens qui ont été aussi dans le Sahara, enfin, je veux dire, après des pluies, c'est assez étonnant. Et voilà, par exemple, la description qu'en faisait Spencer Hillen. Il est difficile de réaliser, sans l'avoir vu, le contraste offert par la steppe australienne en saison sèche et en saison des pluies. Ce qui se présentait souvent pendant de nombreux mois comme une terre sèche et parcheminée est soudain transformé en une vaste étendue d'eau. Toutefois, ceci ne dure qu'un temps très court. La pluie cesse et l'eau pénètre rapidement dans le sol. Les ruisseaux couleront pendant quelques jours, mais bien vite le flot de surface s'arrête et seuls les trous d'eau les plus profonds retiennent l'eau. Le soleil recommence à briller et à chauffer, et dans les sols détrempés, les graines restées en sommeil pendant des mois se mettent à germer et la terre auparavant aride se recouvre comme par magie d'un herbage luxuriant. On peut aller voir et entendre toutes sortes de grenouilles, lézards et insectes, là où auparavant tout était desséché et silencieux. D'ailleurs, autrefois, même dans certaines communautés reculées, il y a encore des rites, c'était le moment privilégié pour les grands rassemblements intertribaux où on pratiquait des rites d'initiation, parce qu'effectivement, c'était un moment où on pouvait se nourrir de façon nombreuse, effectivement, au moment des pluies. Strello faisait une remarque analogue. À la suite de pluies violentes, les arandas pouvaient trouver partout du gibier et des végétaux en abondance. Les fourrés de Mulga regorgeaient de kangourous et d'euros en train de paître. Les marécages étaient le repère des dindes sauvages, des canards et de groupes importants d'émeus. les berges des ruisseaux regorgées d'arbres fruitiers et de vignes diverses. De vastes emplacements d'ignames natifs étaient soigneusement retrouvés par les femmes, qui ramassaient également une gamme considérable de graines comestibles à partir de certaines variétés d'herbes hautes poussant au voisinage de ces emplacements. Donc, dans ce cadre géographique, fertilité végétale et animale sont donc étroitement liées à l'alternance soudaine, sans saison intermédiaire, entre saisons sèches de durée prolongée et saisons humaines courtes et irrégulières. Donc, vous voyez que le paysage non seulement n'est pas perçu comme uniforme par les aborigènes, mais encore, ils le voient passer, et là encore, il s'agit de surface, de différenciation de surface, d'une immobilité silencieuse quasi complète à une animation. Le paysage est revitalisé par la pluie. Et puis, ensuite, il y a des variations de température entre hiver et été qui sont très, très rudes et qui correspondent aussi au changement des espèces végétales et animales disponibles. Donc, tout se passe comme si la sécheresse qui donne son aspect caractéristique au paysage, loin de renvoyer à une stérilité définitive, avait, comme je vous l'ai dit, pour rôle de préserver la vie, qui est longtemps quiescente, mais qui ne demande qu'à s'exprimer dans sa multiplicité dès que la pluie apparaît. Et donc ça va donner lieu au fait que la dessiccation des sols va être associée à la masculinité. Et donc il y a en fait la masculinité chez les Aranda, le terme même est lié, enfin Ourlia, la masculinité, à Oura, le feu. Et il y a l'avant-dernière étape initiatique comportait différentes épreuves du feu, où les gens étaient soumis à des cuissons, et aussi au fait que les femmes leur lançaient des brandons sur la tête. Donc cette idée que les hommes, pour bien exprimer leur être masculin, doivent être dessiqués comme l'est le paysage, ils sont associés d'ailleurs aux pierres, alors que les femmes, évidemment quand on est enceinte, il y a cette idée que le corps de la femme est plein d'eau, cette idée aussi que les femmes qui sont particulièrement fertiles sont plutôt un petit peu grasses, donc il y a cette idée effectivement d'une chair qui est succulente. Et donc il y a cette distinction entre sécheresse et pluie, avec cette dichotomie entre homme-femme. Et la sécheresse également, enfin, j'avais apporté ces graines, qui sont typiquement des graines australiennes, parce que ces graines, qui sont de différentes sortes, hein, que j'ai fait des autres. Donc, ça, c'est étonnant parce que c'est des gros morceaux de bois qui explosent. Et en particulier, ces graines, elles explosent et elles laissent des éléments qui s'envolent au-dessus de l'environnement et qui sont associés vraiment à l'idée d'esprit enfant parce que c'est vraiment très, 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 très fin. Eh bien, très souvent, les feux de bouche, autrefois, quand les aborigènes s'occupaient quand même en partie des broussailles, une partie des chemins qu'ils utilisaient, il n'y avait pas ces grands feux de brousse que vous voyez maintenant à la télévision, qui est assez terrible, a des conséquences écologiques très importantes maintenant que les aborigènes n'ont plus cette fonction. Mais avec les feux petits et moyens de brousse, il y a le fait que ces graines vont s'ouvrir. Et donc, il y a cette idée, encore une fois, de la dessiccation vue comme quelque chose qui participe à la fertilité, mais qui, bien entendu, est complémentaire de l'eau des pluies, mais aussi de l'eau des femmes. Donc, voilà, donc je pense que j'en ai suffisamment dit sur ça. Donc, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est le fait qu'il y a cette idée. Les sols qui sont desséchés, les roches, les pierres, maintiennent quelque chose qui reste quiescent, qui est dessous. Et quand la fertilité s'exprime, ça passe dessus. Et ça, ça a une importance dans la façon de concevoir aussi la cosmologie. C'est-à-dire, c'est un problème. Le rêve, donc, c'est le mouvement spatial qui est multidirectionnel, qui n'est pas substantiel, mais qui différencie les formes. Et en les différenciant, il fertilise les sols. Et on en parle, on a pris l'habitude, à mon avis, quand même, les missionnaires sont très importants, d'en parler comme les temps mythiques, les temps passés. On parle du temps du rêve. Mais en même temps, Françoise Dussard, justement, dans l'article que j'évoquais, qui est dans la fabrique des images, dit bien, ben moi je parle du présent ancestral. Alors, si ce n'est pas un temps passé, on se demande pourquoi parler du présent. Et on a cette problématique chez tous les anthropologues australiens qui essayent de rapporter à une temporalité sinon historique, à une ligne temporelle, donc le passé et le présent, alors que c'est, le rêve est dit éternel. Et les êtres du rêve qu'on utilise pour l'évoquer sont des êtres aussi éternels qui sont constamment évoqués. Hein. Et même si ils sont censés avoir terminé leur voyage, en fait, ce n'est pas vrai, parce que ce sont les initiés qui reprennent les parcours. Et ce qui est sans arrêt renouvelé, c'est les chemins que parcourent les humains. Mais on ne va pas se souvenir des humains, on va se souvenir des chemins qui sont anonymisés. De la même façon que quand il y a des empreintes de pratiques qui sont constantes, ou l'utilisation, la formation de nouvelles, de nouveaux motifs de peinture qui peuvent être sacrés ou non à partir de ce que rêvent les gens, c'est-à-dire que l'idée, pourquoi on dit le rêve, entend donc mouvement spatial, mais en même temps c'est bien rattaché à l'activité onirique. Hein. Le rêve au sens de dreaming, donc de mouvement spatial, en Aranda, c'est Al-Shera, et l'activité onirique, c'est, enfin, voir en rêve, dans l'activité onirique, c'est Ashirerama. Donc c'est voir, on voit, quand on rêve la nuit, on voit le rêve. C'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas autrement. Donc il y a toujours cette idée d'une disparition. Il y a des choses, de la même façon que les chemins qui sont dans le paysage australien peuvent s'effacer, que d'autres réapparaissent, il y a des choses, il y a un processus d'oubli et de remémoration sans arrêt, mais bien qu'on sache très bien que c'est des rêves qui ont été faits par des individus particuliers, on leur parle, il y a un processus d'interprétation collective des rêves de certains, ce n'est pas forcément d'ailleurs les gens qui ont rêvé qui utilisent leurs propres rêves pour faire des nouveaux patterns, donc c'est assez intéressant comme processus justement prescriptif de représentation du paysage, mais il y a cette idée, de la même façon que dans l'activité onirique, quelque chose à l'intérieur du paysage que je ne voyais pas et que je peux remémorer en rêve, il y a cette idée d'éléments qui passent du dessous au-dessus. Et, ça, et puis on peut repasser par l'oubli du dessus au-dessous. Donc il y a cette idée de renouvellement permanent et la façon dont on va représenter justement les chemins qui relient d'une part, des traits de paysage, les places, les localités particulières, les points du paysage particuliers ou les chemins qu'on a parcourus simplement pour aller maintenant dans des villes particulières, sont sans arrêt refaits. Hein. Et bien entendu, à l'époque où il y avait des grands rassemblements intertribaux, où des centaines et des centaines de personnes se rassemblaient, on se remémorait ces chemins en fonction des chemins qu'avaient vraiment parcourus les êtres, les initiés masculins. Mais par contre, la façon dont on s'en remémorait, c'était au travers d'un discours sur le rêve, anonymisant et qu'on attribuait à des êtres du rêve, tout en sachant très bien, hein, ils ne sont pas des idiots, ils savent très bien qu'il y a des personnes réelles qui l'ont fait, mais la façon dont on va se souvenir, c'est au travers d'un processus d'anonymation. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que, là encore, on va montrer des choses en cachant. Ça, c'est un processus systématique chez les aborigènes. Alors, si je repars de cette idée du dessus ou au dessous, il y a, par ailleurs, les représentations Aranda de la procréation renvoient deux processus distincts, l'un charnel, l'autre spirituel. La chair, la matière à partir de laquelle est constitué l'embryon, le bébé, résulte de la combinaison au sein de la matrice maternelle des fluides sexuels issus du père et de la mère. Ce mélange des substances paternelles et maternelles aboutirait d'abord à la constitution d'une matière embryonnaire complètement informe et immobile. Ce n'est pas de la vie. Pour acquérir sa forme finale, c'est-à-dire pour se différencier en un petit être humain sexué et mobile, cette masse informe initiale doit être pénétrée dans un second temps par un esprit qui est issu du territoire, un esprit enfant. Et cet esprit enfant, c'est vraiment un agent doué d'une intentionnalité, il veut s'incarner. On dit que s'il a choisi une femme, enfin les femmes peuvent faire semblant qu'elles sont très vieilles, si elles ne veulent pas, mais bon, elles auront des difficultés. Si un esprit enfant a décidé de s'incarner dans telle femme, il n'y a rien qui l'en empêche. Donc il y a vraiment cette idée de cette personnalité, de cette personnalisation de l'esprit enfant. esprit enfant qui, on verra, est associé à un être du rêve qui est à la fois humain et non humain. Donc, du coup, un esprit enfant humain et un humain qui l'incarne aura un lien particulier avec un totem, un être non humain particulier. Donc les esprits enfants sont censés survoler le territoire et choisir les femelles fécondes dans lesquelles ils vont s'incarner. Ce sont les initiés qui, en exécutant des rites, inciteraient les esprits enfants à s'incarner en êtres vivants. Donc les hommes et les femmes interviennent au niveau du pôle charnel de la reproduction, mais les hommes ont une importance beaucoup plus grande au niveau du pôle spirituel et différenciateur de l'espèce humaine. On a vu effectivement que l'idée qu'ils sont du côté de la dessiccation est quelque chose d'important. C'est eux qui préservent. Et c'est au travers des femmes qu'on exprime cette fertilité, notamment en ce qui concerne la fertilité humaine, parce que les femmes peuvent tout à fait intervenir dans la fertilité des totems. Donc, c'est ce que je me propose de vous raconter, un mythe. Alors, un mythe d'origine un peu, je dirais, classique, même s'il est très aborigène. Donc, ça raconte ça de manière allégorique. On va voir qu'en fait, il s'agit d'une allégorie à la fois de l'ontogenèse et de la façon de l'initiation, de la trajectoire dans l'initiation masculine qui va autoriser les hommes à séparer les enfants de leur mère à la puberté, à les transformer en sujets fertiles, c'est-à-dire dans un tel contexte en être autonome. Donc, ce mythe qui a été collecté par Théodore Strello dit: le ciel et la terre ont toujours existé, tous deux ont toujours été la résidence d'êtres surnaturels, donc incréés. Mais au début, la terre était plate et sans forme. Aucune montagne, aucune dune, aucune rivière ne marquait sa surface nue. Elle était recouverte par la nuit et le froid, car le soleil et la lune restaient en sommeil dans ses profondeurs. Aucune plante, aucun animal ne pouvait exister dans de telles conditions. Néanmoins, une vague forme de vie existait sous la forme de masses semi-embryonnaires, issues de la transformation inachevée en êtres humains de divers animaux et végétaux à demi développés, tous amalgamés ensemble par centaines. Ces créatures, en arandin les inapatois, qui veut dire être incomplet ou homme rudimentaire, reliées les unes aux autres, ne pouvaient ni bouger, ni voir, ni respirer. Leurs doigts et leurs orteils, leurs membres étaient des ébauches à peine différenciées, tandis que leurs yeux, leurs bouches, leur nez restaient clos. Ils ne pouvaient donc se développer en hommes et femmes individualisés, mais ils ne pouvaient pas non plus vieillir, pourrir ou mourir, car si la vie était inconnue, il en était de même de la mort. Donc, vous voyez l'idée d'une masse embryonnaire qui est immobile, indifférenciée. Nick Peterson, récemment, a commis un article où il précise que très souvent, dans les rites d'initiation, on évoque la différenciation et de façon très transparente. Ce n'est pas ça qui est important dans le rituel. Ce qui est important, c'est de faire les actions qui sont justes à faire. Mais par contre, les représentations symboliques sont assez transparentes. Elles sont toujours en train d'évoquer la métamorphose. Alors, on continue ce récit. Donc, vous avez une espèce de grosse galette des rois avec tout à l'intérieur, bien plate, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut, sauf que ce n'est pas vivant parce que ce n'est pas encore sorti. Donc, sous terre, la vie existait déjà dans sa plénitude, sous la forme de milliers d'êtres surnaturels incréés, encore assoupis, qui, comme le ciel et la terre, ont toujours existé. Puis le temps vint où des êtres dits Numbakula, ce qui veut dire terme signifiant « issu de rien », existant par soi-même, s'éveillèrent. Ils brisèrent la croûte froide et obscure de la terre, laissant échapper le soleil qui, pour la première fois, put l'illuminer et la réchauffer de ses chaleureux rayons, tandis qu'elle se recouvrait de nappes et de points d'eau. Et sur la voûte du ciel ainsi libérée, puisque le ciel était contenu à l'intérieur, se dessinèrent les étoiles et la lune et la profonde rivière qui est la Voie lactée. Alors, là, les Numbakula, ils renvoient en fait à la collectivité des initiés masculins. Une fois qu'ils sont passés du côté, enfin qu'ils ont été initiés, ils ne sont plus du côté du féminin, ils peuvent aider les femmes à avoir des enfants en incitant les esprits enfants à s'incarner. Mais il y a cette idée que tout homme a été au départ englobé dans un ventre féminin. Mais quand l'initiation consiste à le faire sortir de ce ventre définitivement, donc ce n'est pas seulement la naissance, mais c'est tout au long de la vie, il faut l'aider jusqu'à ce qu'il soit pleinement initié à se séparer de sa mère qui entacherait, s'il restait auprès d'elle, son identité masculine et son identité justement desséchée. Ainsi, il y a très longtemps, deux Numbakula, deux êtres issus d'eux-mêmes. Il y a cette idée chez les aborigènes, vous avez un mouvement différenciateur qui est issu d'un mouvement associateur. Pour faire des initiations, vous avez besoin de gens qui ont des identités complémentaires. Et donc, le fait d'évoquer deux êtres du rêve veut dire effectivement que c'est ça qui suscite la différenciation. Donc, deux nomagulia, deux êtres issus d'eux-mêmes, donc issus de la collectivité masculine, du ciel où ils résidaient, pouvaient voir sur Terre des inapatois, donc ces êtres humains inachevés, amalgamés ensemble sur les bords de lacs salés. Ces créatures informes, privées de membres et d'organes d'essence, différenciées, ne mangeaient pas et ne se déplaçaient pas. Alors, finalement, quand on vous dit en plus que c'est des lacs salés, que c'est d'une matière informe et embryonnaire, on voit bien que c'est quand même une métaphore de l'état fœtal. Descendant de leur résidence céleste, munis de couteaux de pierre, les Numbakula vinrent séparer les uns des autres et modeler un à un les inapatois. Ils dégagèrent d'abord leurs membres, puis ouvrirent leurs bouches, leurs nez, leurs yeux, et enfin les distinguèrent en hommes et femmes. Ce n'est qu'une fois individualisé de la gangue commune que chaque être humain est associé à l'élément non humain, végétal ou animal, dont il a été primitivement scindé. Cet élément non humain dont il est physiquement séparé sera son totem. Donc l'idée qu'effectivement, pour qu'il puisse avoir une responsabilité sur l'incarnation de l'espèce totémique avec laquelle il est associé, l'initié masculin, il doit être séparé de l'être totémique. Il y a vraiment cette idée, enfin, ça n'a rien à voir avec la perspective ontologie animiste, il y a vraiment, enfin, on en a parlé avec Eduardo, il y a une hiérarchie chez les aborigènes qui est importante. Les humains sont hiérarchiques, ont une responsabilité sur les autres espèces, qui fait qu'effectivement, il n'y a pas, enfin, je veux dire, ils ont un rôle qui est autre, et c'est eux qui ont des responsabilités sur leur propre espèce et aussi sur les autres espèces non humaines. Donc, ce récit en trois actes affirme l'existence éternelle de tous les éléments et principes régissant la marche du monde. C'est là où, effectivement, tout était toujours là. Les éléments primordiaux du cosmos, le ciel et la terre, le soleil et la lune, les diverses créatures vivantes, animaux, végétaux et humains, ainsi que les êtres surnaturels. Mais l'ensemble de ces ingrédients nécessaires à l'alchimie de la vie sont au cours du premier acte décrits comme amalgamés les uns aux autres au sein du grand tout cosmique constitué par la Terre qui les englobe tous. Ils forment une masse amorphe, hybride, inanimée, maintenue en léthargie dans les entrailles humides et froides. Donc, il y a cette idée qu'effectivement, il y a l'idée d'éternité du mouvement spatial, c'est qu'il n'y a pas de début et de fin. Donc, ça n'a pas de sens de dire que c'est dans les temps passés que ça a été fait. C'est là. Simplement, encore une fois, c'est un processus d'oubli et de remémoration et aussi un processus d'association. Une fois qu'on a été initié, c'est qu'on a été pleinement différencié. Et parce qu'on est différencié, on peut s'associer. Et des êtres différenciés qui sont associés assurent une complémentarité qui est dynamique et qui va permettre de différencier et de nouveaux êtres vivants au travers des incarnations et de nouveaux initiés. Donc c'est pas si compliqué que ça. Il y a une cohérence très, très importante. Mais... Donc il y a cette idée d'une Terre qui est grosse de tous les possibles, mais qui ne renvoie à rien s'il n'y a pas un processus de différenciation qui va venir. Donc je pense que vous avez suffisamment compris, effectivement, que le processus de différenciation est tout à fait fondamental. On relèvera aussi que l'hybridité des inapatois, donc de ces êtres humains qui sont inachevé, c'est une hybridité du côté de la physicalité, c'est-à-dire corporelle. Alors que l'hybridité, on va y revenir, des êtres prodigieux, c'est une hybridité spirituelle, et du coup, qui est associée à la mobilité, à la différenciation. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a besoin d'êtres qui vont les différencier, les séparer de la terre nourricière, et donc, de laquelle ils étaient dépendants. Voilà, je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles. Je vous ai montré tout ça. Donc, comme je disais, mon hypothèse, pour essayer de dire que quand même j'ai l'intuition qu'il y a bien une idée de paysage, une conception de paysage chez les aborigènes, c'est que, comme je vous l'ai dit, le concept princeps de la cosmologie australienne, le rêve, en tant que dynamisme spatial qui est à l'origine de la différenciation perpétuelle des formes, de l'environnement et des êtres vivants. Donc ce rêve subsume la notion de paysage, ce pourquoi effectivement les aborigènes n'auraient pas besoin de revendiquer le terme anglais de landscape. Alors, parlons plus du rêve. La cosmologie Aranda résulte d'une démarche culturelle qui répond à trois principes. Une classification des différents phénomènes visibles du monde en trois catégories distinctes. Les traits de paysage, l'espèce humaine et les autres espèces vivantes animales et végétales. Une articulation entre ces trois catégories, de sorte que chaque élément d'une catégorie soit mis en relation avec un élément des deux autres. Chaque humain est associé à un trait de paysage, qui va sous-tendre son identité sociale, et à une espèce non humaine, qui va sous-tendre son identité rituelle, totémique. La mise en place d'un rapport, troisièmement, la mise en place d'un rapport hiérarchique, comme je vous l'ai dit, entre les deux catégories d'êtres vivants, puisque c'est les humains, au travers de leurs activités cérémonielles, qui sont seuls responsables de la fertilité de l'ensemble des espèces. Le caractère holiste de cette cosmologie procède du fait que les Arandia attribuent cet ordonnancement du monde à un même processus à substantiel éternel, Alchera, le dynamisme spatial, traduit dans la littérature anthropologique, comme je vous l'ai dit, par le terme rêve, dreaming, que je préfère, parce qu'on voit bien que le terme dreaming, c'est quelque chose de processuel, c'est une action, et il s'agit bien de ça. Pour les Aranda, comme pour l'ensemble des aborigènes australiens, tout procède du rêve. Le modelage de l'environnement, l'incarnation des êtres vivants, les divers phénomènes culturels, organisation sociale, rites, etc. Réciproquement, les aborigènes appréhendent tout ce qui les entoure, tout ce qu'ils voient, comme l'indice de la réalité du rêve. Par conséquent, les phénomènes visibles du monde sont eux-mêmes qualifiés de rêves. Ils en sont autant de représentants partiels, mais aucun pris isolément ne peut prétendre le représenter dans sa globalité. Même si on dit que ce totem, c'est mon rêve, ce n'est pas le rêve en tant que le processus global de différenciation. En tant que dynamisme générateur de forme, le rêve différencie la matière, mais il est lui-même invisible parce qu'asubstantiel. Pour restituer son sens de mouvement multidirectionnel, de processus de mise en forme, la meilleure façon de le représenter, ou plutôt de l'évoquer, est de représenter un déplacement. D'un autre côté, pour restituer la transcendance du rêve, il faut conférer à ce déplacement une dimension d'exception. La manière dont on va s'y employer diffère suivant que la représentation se fonde sur un discours, ou un objet, ou une mise en scène. Tournons-nous tout d'abord vers les modalités discursives de représentation du rêve. Pour évoquer le rêve dans les récits, les aborigènes décrivent les déambulations d'êtres doués d'éternité dont la nature est à la fois humaine, ils pensent, rêvent et se comportent comme tels, et non humaine. Ils ont l'apparence et ou la capacité de se transformer en un animal ou un végétal qui détermine leur identité totémique, en divers traits de paysage, et enfin en objets cultuels churinga qui sont conjointement associés à cette identité totémique. Donc, ils ont cette capacité de se transformer en animal ou en végétal, l'identité totémique. Ils se transforment également en divers traits de paysage et ils se transforment aussi en objets cultuels qui sont appelés des churinga. Donc c'est des objets qui sont extrêmement sacrés, dont on n'a pas le droit de montrer, qu'on n'a pas le droit de montrer dans les musées. On attribue donc à ces êtres hybrides, les êtres du rêve, des capacités extraordinaires qui sont rattachées à leur mobilité. Ils marchent, courent, volent, se faufilent sous terre, et c'est sous leurs pas que serait apparu le relief de l'environnement australien et son imprégnation par des éléments spirituels et éternels, les esprits enfants, dont procède l'incarnation des êtres vivants. Chaque être du rêve disséminerait ainsi tout au long de sa trajectoire une multitude d'esprits enfants qui émaneraient de son corps. Mais corps, au sens d'une image transparente. Certains sont aujourd'hui incarnés sous une forme humaine, et l'on désigne alors au cours de la narration les individus concernés, ou sous la forme de l'autre espèce naturelle associée à l'être du rêve. Sa nomination au cours du récit rend compte de l'identité totémique des lieux désignés. De fait, les histoires des êtres du rêve consistent essentiellement à décrire la topographie et la toponymie du territoire en rendant compte de l'identité totémique des individus et des lieux, ainsi que des relations qu'ils entretiennent entre eux. Donc, je voulais vous décrire les récits tels qu'ils se faisaient, mais on décrit les déambulations et le récit s'achève à l'endroit où les êtres prodigieux disparaissent en s'enfonçant dans le sol. C'est ce que je veux dire, à la fois processus d'oubli, à la fois processus effectivement qui fait qu'ils sont toujours latents là, soit parce qu'ils étaient fatigués de marcher dans le récit, soit parce qu'ils sont morts pour un autre motif, en ayant été par exemple décimés par une quelconque catastrophe. Mais ils laissent derrière eux les objets cultuels qu'ils portaient dans leur voyage, à cet endroit-là. Et comme à l'accoutumée, on nous précise qu'une pierre ou un autre élément du paysage s'est érigé pour marquer le lieu et que les esprits enfants en émanent. On voit donc que les récits de ce genre, en décrivant une topographie et une toponymie, fournissent, enfin, vous ne voyez pas parce que je ne vous ai pas décrit, mais ça fournit vraiment tous les éléments pour identifier un environnement. Donc à ce moment-là, il me semble effectivement, là aussi, qu'on a une transformation à partir d'un environnement qui sera anonyme, de quelque chose qui est personnalisé et qui est représenté ensuite par des peintures, qui peut être des peintures corporelles, sur des objets cultuels, qui peut être maintenant porté sur des peintures acryliques. Donc il y a bien une représentation de ces portions de paysage. La description minutieuse du trajet particulier emprunté par chacun des héros apporte en outre aux êtres prodigieux un semblant de consistance en étayant leur identité. En effet, si les êtres prodigieux Aranzoa sont nommés et par là identifiés à partir de l'espèce totémique à laquelle ils sont associés, par exemple être émeux, ou d'un autre trait caractéristique de leur apparence, l'identité nominale qui en découle est avant tout générique, catégorielle. Ça, c'est une chose aussi qui a été repérée par Philippe Descola, le fait que ce n'est pas une relation personnelle d'individu à individu entre un individu et un individu de son espèce totémique. C'est, effectivement, il y a un lien avec la catégorie totémique. Donc, du coup, pour particulariser un être, il y a une quantité très grande d'êtres kangourous, d'êtres du rêve kangourous. Des fois, ils sont en groupe, des fois, ils sont seuls. D'êtres émeux, d'êtres fleurakea, etc. Donc, pour que cet être du rêve ait une identité, vu qu'on ne le voit pas, on ne peut l'attraper qu'au travers de ce qu'il a laissé derrière lui, c'est-à-dire des objets cultuels, des éléments du paysage, des personnes qui maintenant sont incarnées au travers des esprits enfants qu'il a laissés. Eh bien, la façon dont on va l'identifier, c'est un chemin. Et ce chemin, d'une certaine façon, à un moment donné, il est stabilisé. Donc, paradoxalement, l'être prodigieux dont on a évoqué au travers de la parole le mouvement, bah, la parole va aussi l'épingler au sol et l'immobiliser, puisqu'au total, on ne le voit plus, on ne le verra jamais. Il n'y a pas d'effigie permanente des êtres prodigieux. Il y a des récits. Et puis, il y a par ailleurs, ce dont je voulais vous parler, mais qu'effectivement le temps presse, donc j'essaye d'aller vite, il y a aussi la possibilité de représenter un être du rêve au travers d'une performance rituelle qui est associée à une portion de paysage. Je disais tout à l'heure que chaque être humain est associé à un esprit enfant qui renvoie à un être prodigieux, mais qui renvoie aussi à une portion, à un endroit particulier où cet être prodigieux a été. Il est associé donc à un centre totémique, mais il y a plein de centres totémiques qui peuvent être associés à un même être prodigieux. Et donc, cette personne va avoir une responsabilité totémique, mais il est aussi propriétaire de son objet cultuel, qu'il pourra voir s'il est un homme, qu'il ne pourra pas voir si c'est une femme. Et avec cet objet cultuel, sont associés des chants spécifiques, sacrés, un nom particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il va pouvoir faire, il est censé pouvoir pratiquer des rites, hein, un rite qui est associé avec un objet cultuel associé à un être humain, ça s'appelle un kwabara, c'est des rites personnels. Mais très souvent, ce rite, c'est pas le propriétaire du tsuringa qui est associé au rite, au chant, etc., qui va faire le rite. Il va permettre à quelqu'un d'un autre totem, qui est issu, dont l'esprit enfant est issu d'un autre centre totémique, il va lui permettre de faire ce rite à sa place. Et c'est très important, parce que là encore, vous avez la complémentarité des gens qui font un rituel est très important. Donc le propriétaire prête son objet cultuel qui va être inséré à la paraphernalia rituelle. on prend un temps infini, enfin, ça dure des heures et des heures, bon, dans un rite que je n'aurai pas le temps de vous présenter, que j'ai là, enfin, qui, y a la préparation du rituel a duré 5 heures, et le rite lui-même va durer 5 minutes au plus. Hein. Et la personne va représenter un être du rêve, mais d'une façon extrêmement rapide. Et la façon dont on représente un être du rêve par une performance rituelle, c'est au travers d'un mouvement particulier, mouvement qui est associé à la fertilisation du territoire sur un lieu particulier qui est représenté sur le corps de la personne qui joue l'être prodigieux. Mais son mouvement, sa qualité qui va permettre que le duvet qui le recouvre s'envole et donc évoque les esprits enfants, donc la fertilité, il est lié au chant que font d'autres personnes qui sont autour. Et donc, vous avez une complémentarité totale des différentes personnes qui sont présentes. Et ça, ça évoque effectivement cette idée de complémentarité, d'association d'êtres différenciés qui provoque la différenciation. Je vais juste vous montrer une image. Donc, je ne vous ai pas montré les objets cultuels. Donc je vais en profiter. Ah, ce n'est pas ça. Alors... ça doit être ça. Voilà. Vous avez voilà, ces objets cultuels sur lesquels vous avez la représentation du cheminement qui a induit l'émergence de cet objet cultuel. C'est-à-dire il est porteur du mouvement qui a généré son existence. C'est ce que j'appelle un objet autoréférentiel. Par ailleurs, cet objet va être... Donc, j'ai dit tout à l'heure que les êtres du rêve ils sont immobilisés par le récit. Mais en fait, ce qui va permettre aux êtres du rêve de repartir, c'est le fait que quand les initiés vont partir au cours des rituels, ils partent avec leur churinga, et ils portent avec lui ce morceau de paysage, puisque c'est issu, enfin, les churingas sont faits soit de pierre, soit de bois. Ils sont systématiquement les churingas personnels, humains, associés à des esprits enfants. Ils sont emmenés sur le territoire. Et donc, vous avez une espèce de mobilité de ces morceaux de territoire sur lequel, encore une fois, vous avez représenté le mouvement de la même façon que sur le territoire australien, vous avez le mouvement qui représente les traces des êtres du rêve. Alors, je vous en montre d'autres. Donc ceux-là sont en bois, les autres étaient en pierre. Là, vous avez, par rapport à cette histoire d'assemblage de cercles et de trajectoires, hein, cette idée donc, que les cercles renvoient soit à l'identité totémique et ou en même temps à un lieu particulier ou un événement particulier, tandis que les lignes renvoient au cheminement entre ces événements ou entre ces traits de paysage qui peuvent être associés. Et vous avez, donc, puisqu'il s'agit de la trace qui est laissée par les actions, vous avez également les empreintes de pas d'animaux. Là, c'est plus classique, même si c'est une nappe. Donc là, vous avez le t-shirt que j'ai sur moi. Et là, donc, je vous disais, c'est quelque chose qui a été fait par des amis aborigènes dans la communauté où j'étais. Et vous avez donc les deux petits demi-cercles blancs, c'est mon mari et moi. Puisqu'on est blanc, donc ce qu'on a sur le sein, mais pour bien montrer. Et donc les nourritures qui sont autour, c'est ce qu'on a partagé ensemble. Et puis le côté des dot paintings, ils sont autour de l'endroit où nous nous sommes réunis pour partager ensemble la nourriture, quand on est allé chasser ensemble, etc. Vous avez cette irradiation de la végétation. Ce n'est pas aussi beau que d'autres endroits, mais je l'aime bien parce que c'est personnalisé. Donc là, c'est le t-shirt que j'ai mis là. Donc, vous voyez que c'est l'endroit où j'ai travaillé. Donc là, on a ça. Et maintenant, je voulais vous montrer. Donc, donc là, c'est d'autres motifs qui sont sur les churingas. Et là, vous avez la représentation d'un être du rêve. Donc ça, c'est le cours de fabrication. Donc c'est un être du rêve... grenouille, si je ne me trompe. et avec des pattes de grenouilles qui vont être représentées sur ses cuisses, des grenouilles adultes, des têtards qui sont représentés par ce qu'il a sur la poitrine. Il est recouvert de duvet. Et quand je vous disais, et sur sa tête, bon, ça prendrait beaucoup de temps de vous décrire tout ce qui a été fait, ce pourquoi ça prend 5 heures. Vous avez un churinga en bois qui est placé sur sa tête. Vous voyez aussi que ça évoque quand même certaines choses. Et avec des cercles de duvet qui sont placés avec du sang. Et donc, on peut faire sang, pas sang, ce qui fait que ça fait des cercles qui sont alternativement blancs et rouges. Vous avez une touffe de plumes au bout. Vous avez des cheveux et des brindilles qui sont mises pour faire la base sur laquelle repose le churinga. Et vous voyez que la personne qui est censée représenter l'être du rêve, il est complètement anonymisé. Mais complètement, enfin, je veux dire, là c'est le texte final, et ça va durer 2-3 minutes. Il va bouger pour représenter effectivement l'être du rêve au moment où il a fertilisé un certain endroit avec des esprits enfants humains et des esprits enfants grenouilles. Et puis les gens qui courent autour de lui, enfin qui sont en l'occurrence des novices, et puis les gens qui chantent, enfin d'autres initiés qui sont autour qui chantent, dont d'ailleurs le propriétaire du rite, ce qui n'est pas lui propriétaire des rites, tout ça combinant quelque chose qui est absolument complémentaire. Donc il faut, pour représenter un être du rêve, il faut quelque chose d'extrêmement hétéroclite. C'est-à-dire que vous avez un être humain sur lequel sont représentés des non-humains à partir d'éléments végétaux, d'éléments humains, puisqu'il y a du sang humain, de plumes d'oiseaux, etc. Donc le côté de l'hybridité de l'être du rêve est représenté. Vous avez également donc l'idée, parce que le duvet, quand il bouge, s'envole des esprits enfants, donc de la fertilité. Et en même temps, pour représenter un être du rêve, la condition, c'est que ce soit éphémère. C'est-à-dire que lui, il ne présente pas à être une effigie à tout jamais, il n'est pas du tout l'être du rêve. Donc en fait, l'être du rêve, vous ne le voyez jamais. En plus, ce qui permet de représenter l'être du rêve, c'est justement le churinga sur lequel est inscrit l'événement qui est en train d'être montré. Mais justement, le churinga, il est complètement recouvert, harnaché de ficelles de cheveux, complètement. Sur ces ficelles de cheveux, on a mis du duvet qui recouvre complètement le churinga, et en même temps il est vraiment là, sans jeu de mots, à la place capitale, puisque c'est en fait c'est ce qui est sur le churinga qui est représenté. Donc ce qu'on représente là, c'est en fait le rêve lui-même. Je veux dire, le rêve, c'est un mouvement asubstantiel qu'on peut jamais appréhender en tant que tel. On ne peut l'appréhender qu'au travers de ses effets, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a toujours des gens qui sont incarnés, des espèces qui sont incarnées, c'est bien la preuve que le rêve est là. Donc c'est le principe transcendant. Nous, on croit aussi que c'est bien l'ADN qui fait que si vous n'avez pas d'ADN, ben vous ne pouvez pas vous reproduire. Donc si vous voulez, effectivement, c'est aussi pas très clair. Enfin, on pense que c'est la mémoire qui est conservée, etc. Donc, pour pouvoir représenter des forces transcendantes, il ne faut pas que ce soit trop univoque. Parce qu'effectivement, si on représentait le rêve ou un être du rêve, on emprisonnerait l'élément important de cette représentation qui est l'invisibilité. Donc, plus on monte, plus on cache. De la même façon que quand vous voyez le churinga, vous ne pouvez pas l'interpréter vous-même. Si vous n'êtes pas quelqu'un du lieu où est entreposé ce churinga, parce que les churingas, quand on ne les utilise pas sur les terrains cérémoniels, ils sont mis dans une fissure, dans une caverne, ils sont mis dans le paysage, donc ils retournent au paysage dont ils sont issus. Ils sont recouverts de cheveux, etc. Ils sont graissés d'ocre, graissés, et ensuite on met de l'ocre rouge. Donc vraiment, ils participent au paysage, mais en même temps, c'est des paysages mobiles, ce qui permet. Mais quand vous les regardez, vous ne pouvez pas lire, ce n'est pas une écriture. Et en même temps, c'est censé représenter un mouvement, mais ça ne représente pas une chose. Ça représente la représentation du monde des Arendins et une parcelle de ce monde, puisque personne ne détient la totalité. Et c'est ensemble, donc c'est l'association de l'ensemble des initiés, mais des personnes vivantes également, puisque les femmes sont associées aussi à des churingas, même si elles n'ont pas le droit de les utiliser elles-mêmes. Donc c'est cet ensemble qui fait que la vie perdure. Et c'est la responsabilité des humains. Donc, je ne sais pas si j'ai été très, très, très claire. Je suis désolée, c'est parti dans tous les sens. Mais je pense que vous avez l'idée de ce que peut-être un peu tout
fait. Merci. Merci, Marie-Pierre.